Onde durable.
La santé des sols.
Une série pour comprendre les enjeux autour de la sauvegarde, la sensibilisation et la renaturation des sols.
Bonjour à toutes et à tous. Ce sont les seuls écosystèmes à faire l'objet d'une convention internationale spécifique. Les zones humides sont protégées par la convention de Ramsar depuis 1972. En France, elles sont aussi protégées par le Code de l'environnement depuis 1992. Les zones humides représentent près de 3% de notre territoire. Mais pour mieux les protéger, il faut bien les identifier. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Christophe Ducommun, pédologue à l'Institut Agro-Rennes-Angers. Il préside la commission Zones humides à l'Association pour l'étude des sols. Mais avant, direction le marais de Millac en Loire-Atlantique. Valérie Lecrom de Jade FM nous emmène à la découverte de cet espace naturel sensible qui fait l'objet d'une attention particulière.
Les zones humides sont des sites caractérisés par la présence d'eau de manière permanente ou temporaire au cours de l'année. Ceci se traduit par la présence de plantes caractéristiques ou de traces spécifiques, dites d'hydromorphie, dans le sol. Elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Elles permettent, entre autres, de réguler les débits des cours d'eau, d'améliorer la qualité de l'eau en l'épurant naturellement, et abritent une biodiversité riche. On estime ainsi que 30% des plantes remarquables et 50% des espèces d'oiseaux sont présentes sur ces zones. Denis Salio, ingénieur milieu naturel, nous emmène dans le marais de Millac, zone naturelle sensible qui fait l'objet d'une attention toute particulière.
On est 3 agents dans l'unité milieu naturel. Nos missions, c'est l'entretien, l'acquisition, la gestion des espaces naturels sensibles sur la délégation Pays de Ré.
Est-ce qu'on peut situer pour nos auditeurs ?
Alors, le marais de Millac est situé sur la commune de Villeneuve-en-Ré, donc au nord du marais breton, donc au sud de la Loire-Atlantique.
Le département de Loire-Atlantique est classé second département français en termes de zone humide, le marais breton constituant la 3e zone humide nationale avec une superficie d'environ 350 km². Marais doux, marais salés et zone de polders.
Qu'est-ce qui caractérise ce site classé ENS, espace naturel sensible ?
Il a été classé espace naturel sensible tout récemment. En 2019 en fait. On a créé une zone de préemption espace naturel sensible avec la commune de Villeneuve-en-Ré. Et l'objectif en fait c'est de préserver et valoriser ce marais qui était en déprise agricole. C'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de zones qui s'enfrichaient. Et l'idée pour préserver ce marais, c'était de remettre en gestion agricole dans la mesure du possible, tout en préservant la biodiversité du site, qui est une biodiversité importante. On est proche de la mer, donc toute une zone de repos pour les oiseaux, et puis avec des milieux qui sont de marais salés, qui sont vraiment très importants, avec de nombreuses espèces, tant faune que flore. Et puis un élément important aussi, on est dans le site Natura 2000 de la baie de Bourgneuf, donc qui est protégé aussi à ce titre-là.
Quel type d'agriculture on trouve ici alors ?
On est à quasiment un gros tiers de la surface du marais qui n'est que de l'eau. Et toutes les zones prairiales qui sont autour sont entourées d'eau. Donc on a des ceintures de douves et de nombreux bassins. Donc au niveau agricole ici, c'est uniquement du pâturage ou dans certaines zones de la fauche. Mais il n'y a pas de culture, c'est impossible de cultiver. Ouais, c'est du pâturage.
Entre ostréiculteurs, paludiers, chasseurs, agriculteurs. Par exemple, là, on a vu qu'il y avait une chasse en cours, une battue au sanglier. Est-ce que tous ces acteurs-là arrivent à dialoguer ?
Ces sites, en fait, sont animés avec un comité de gestion. Un comité de gestion, c'est une réunion qu'on organise annuellement et qui réunit tous les acteurs locaux. Donc, on invite bien évidemment les communes et tous les usagers du site. Et donc, on réunit toutes ces personnes au sein d'un comité de gestion où on échange justement sur les objectifs du site, sur les actions qu'on met en œuvre. Et chacun, voilà, on parle de sa thématique. Et voilà, c'est une réunion où on cherche toujours de trouver le consensus pour tomber d'accord, compte tenu aussi des intérêts écologiques du site. Par exemple, sur des périodes de nidification, on va plutôt demander aux associations de ne pas réaliser d'animation pour éviter de déranger les oiseaux.
De tels espaces nécessitent de l'information et de la pédagogie auprès du public, mais aussi de nombreux travaux pour minimiser l'envasement et la présence de plantes invasives.
Il y a un respect, hein. On est sur une zone naturelle, donc les gens quand même font vraiment attention. On le voit, il y a quand même beaucoup de monde à se promener, beaucoup plus sur les Moutiers, puisque les Moutiers, il y a la présence du sentier des douaniers le long de la mer, donc il y a une forte fréquentation. Et on voit bien, il n'y a quand même pas énormément de dégradation, il y a très peu de déchets. Donc les,
on va dire que on fait attention,
les promeneurs font attention. Mmh. Alors on met aussi en place une petite signalétique, pour rappeler qu'on est dans un espace naturel, avec quelques pictos qui rappellent ne pas jeter de déchets, ne pas cueillir de plantes, etc. Quoi. Sur les plantes invasives, bien évidemment, on mène des actions de retrait de ces plantes lorsqu'elles sont présentes sur les espaces. Alors, il n'y en a pas partout. Là, sur le marais notamment, il y a quand même un développement qui peut être assez important, c'est le baccharis. Et donc, on mène des actions justement de suppression de ces plantes invasives. Donc, comme c'est des plantes invasives, il faut y revenir régulièrement. Mais chaque année, on a des programmes de travaux pour suppression de ces espèces. Et puis, au niveau de l'envasement, on réalise aussi des travaux de curage du marais pour justement maintenir toutes ces zones.
Donc ça, c'est un gros travail, j'imagine.
C'est un gros travail, ouais. Et puis sur des marais, on n'est pas tout seul à travailler là-dessus. Dans le cadre de sa compétence milieu aquatique, on travaille avec Pornic Aglo, qui réalise aussi des travaux de curage sur les principaux étiers d'alimentation en eau. Et nous, ensuite, on réalise des curages plutôt sur nos bassins ou sur les douves qui sont présentes sur nos terrains.
Afin de garantir la préservation de cet environnement sensible, le département se porte acquéreur de certaines terres.
Si on le résume un peu rapidement, en fait, c'est une compensation de l'urbanisation. Et c'est financé, en fait, cette politique-là, par la part départementale de la taxe d'aménagement. Et c'est une taxe que chacun qui construit une maison doit payer. Depuis 2019, date de création de la zone de préemption, on a déjà acheté quasiment 30 hectares. L'acquisition foncière était un très bon outil de protection. Une fois qu'on l'a acheté, au titre des espaces naturels sensibles, on se doit de les entretenir et de les gérer dans l'objectif de leur préservation et de la valorisation. On a des budgets dédiés pour les entretenir et c'est nos obligations. Sachant que tout ce travail, on le fait aussi avec les associations naturalistes,
la LPO,
Bretagne Vivante, le Conservatoire Botanique National de Brest, qui nous accompagnent aussi pour mener des campagnes d'inventaire naturaliste et donc de définir les actions à mettre en œuvre. Voilà, faut préserver la zone humide.
L'arrêté du 24 juin 2008, modifié en octobre 2009 du Code de l'environnement, stipule la nécessité de préserver les zones humides et introduit des critères sur les sols et la végétation qui permettent de les identifier et de les délimiter. Mais la caractérisation des zones humides reste complexe et les critères podologiques indispensables à cette caractérisation sont encore peu maîtrisés. L'AFES, Association française pour l'étude des sols, met à disposition une application nommée Sol Redox, qui permet d'accompagner la meilleure caractérisation des sols hydromorphes pour une identification plus efficace des zones humides. Chloé Girardeau-Moitié, vice-présidente ressources, milieux naturels, biodiversité et actions foncières du département. Lorsqu'un territoire est qualifié de zone humide, qu'est-ce que cela implique ? Dans sa gestion, il y a une réglementation particulière pour le protéger, notamment ?
C'est notamment depuis 1992 le fait qu'elle soit protégée dans le Code de l'environnement. On a aussi une directive européenne et ça permet de protéger ces zones parce qu'on sait qu'elles ont un rôle très très important. C'est des écosystèmes qui sont vraiment très très riches. On va avoir beaucoup beaucoup d'espèces végétales et animales. Évidemment, on peut penser aux oiseaux, aux canards, qui sont très très présents. Les oiseaux, notamment migrateurs aussi, dans les sphères de la Loire. Donc c'est vraiment des zones très très précieuses. Et en termes de biodiversité, mais aussi elles ont un rôle, notamment par rapport au dérèglement climatique, c'est un rôle qui va devenir de plus en plus précieux. C'est qu'elles font de la régulation hydraulique, c'est-à-dire que en fait l'hiver, quand on a des fortes précipitations, eh bien elles peuvent absorber ces volumes d'eau et les stocker. Ça évite notamment les crues, les inondations. C'est un peu comme des éponges. Et puis l'été, eh bien elles peuvent relarguer l'eau, maintenir les terres un peu plus humides et ça permet de maintenir les niveaux d'eau dans les rivières ou dans les sols. En fait, en 55 ans, à l'échelle mondiale, mais c'est aussi très important au niveau français, On a 35% des zones humides qui ont disparu parce qu'en fait, on a construit dessus, on a drainé. Et donc, toutes les fonctions que je viens de vous décrire, eh bien, elles ont été impactées et ça peut poser des problèmes. Bah, évidemment, l'effondrement de la biodiversité, des inondations, les terres agricoles qui perdent leur qualité agronomique notamment.
Voilà pour ce reportage de Valérie Lechrome de Jade FM. Nous poursuivons maintenant la réflexion avec Christophe Ducommun, pédologue à l'Institut Agro-Rennes Angers, président de la commission Zones humides à l'Association pour l'étude des sols. Une interview réalisée par Marion Bastide de Radio Campus Angers.
Christophe Ducommun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédologue à l'Institut Agro-Rennes Angers et vous êtes aussi le président de la commission Zones humides à l'Association française pour l'étude des sols. Alors déjà, comment on définit une zone humide en France ?
Eh bien, pour définir une zone humide, deux options s'offrent à nous, selon la législation française. On peut le faire soit par un critère végétation, puisque la végétation va s'adapter au sol, et donc on peut utiliser cet argument-là. Parfois, on a des milieux où il n'y a plus de végétation spontanée, par exemple en milieu agricole, où on a des labours, etc. Donc, on a une autre possibilité qui s'offre à nous, c'est de regarder le sol, parce que le sol va traduire par sa couleur s'il possède des engorgements à un moment donné dans l'année ou des engorgements plus durables, eh bien, le sol va garder la trace de cet engorgement.
C'est-à-dire qu'en regardant la couleur du sol, vous pouvez dire si on est ou pas dans une zone humide ?
Oui, tout à fait. Pour la plupart des sols, oui, on peut, en regardant la couleur, alors c'est pas toujours évident parce que la couleur, elle est influencée par beaucoup de choses, si vous voulez, dont la matière organique qui va venir limiter un peu la perception des couleurs qu'on cherche derrière, qu'on appelle des couleurs d'hydromorphie. Mais oui, c'est grâce à ça qu'on peut identifier, garde la trace, le sol.
Comment on explique ça ?
On explique ça un petit peu par des phénomènes microbiologiques, en fait. Ce sont les organismes du sol qui vont changer sa couleur quand il manque d'oxygène. C'est-à-dire que quand on a de l'eau dans le sol, l'eau va chasser l'air avec l'oxygène et les organismes sont bien plus adaptés que nous pour respirer. Ils vont passer en mode anaérobie. Et le passage en mode anaérobie, ben c'est quoi ? C'est respirer autre chose que l'oxygène. Et ils vont s'attaquer peut-être au colorant le plus puissant du sol, qui est le fer. Voilà, les sols, ils sont bruns ou rouges, c'est parce qu'il y a du fer. Eh bien, ce fer va être l'élément qui va être respiré par les micro-organismes. Une fois que ce fer est respiré, il change d'état, il devient soluble, et il migre quelque part ailleurs. Et en fait, la couleur qu'on va rechercher, c'est sa migration. C'est des endroits où il est parti, des endroits où il s'accumule. Et on appelle ça l'hydromorphie.
On peut donc se baser sur la couleur des sols pour définir les zones humides. À quoi ça sert d'identifier et de délimiter ces zones humides ?
Mais si vous voulez, les zones humides, ce sont des milieux un petit peu particuliers, justement par le fait qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc ça va dénoter de milieux qui ont des propriétés un petit peu exceptionnelles, parfois spectaculaires, qui témoignent de l'adaptation des organismes. Et donc ça peut en faire des milieux rares, exceptionnels, et qui remplissent des fonctions tout autant exceptionnelles, et qu'il va falloir préserver parce que ces fonctions, elles peuvent être également utiles pour l'homme.
Quelles sont ses fonctions concrètement ? À quoi ça sert de préserver les zones humides ?
Ben, il y a beaucoup de fonctions en fait. Hein. Il y a des fonctions, une fonction par exemple hydrologique. Quand on garde de l'eau quelque part, qu'on la stocke, peut-être dans certains cas, on peut la restituer un peu plus tard. Voilà, ça permet d'avoir peut-être des prairies qui vont être encore un peu plus vertes quand d'autres ont séché sous le soleil. Hein. Donc voilà, on peut alimenter des animaux avec ça. Il y a des fonctions d'épuration. Quand on a des polluants qui arrivent dans ces zones humides, eh bien peut-être que les micro-organismes se disent « chouette, tiens, un élément que je peux respirer » et puis je dépollue. Voilà, ça dénitrifie par exemple, ça limite les pollutions peut-être par des algues vertes ou ce qu'on appelle l'eutrophisation dans les rivières. Voilà, tout un tas de fonctions. Voilà, c'est un habitat aussi particulier. C'est-à-dire qu'on peut avoir des plantes qui vont se développer que dans ces milieux-là. Pourquoi ? Ben parce que ces milieux manquant d'oxygène, eh bien les plantes vont s'adapter à investir ces milieux et développer des facultés un petit peu exceptionnelles pour survivre. Et donc, on a des plantes indicatrices, des plantes qui ne se développeraient peut-être pas ailleurs, qu'on va retrouver en ces endroits-là. Donc, il y a aussi tout un aspect biodiversité particulier.
Alors en France, entre les années 60 et les années 90, près de la moitié des zones humides ont disparu. Heureusement, depuis, ce phénomène a ralenti avec la mise en place de protections. Aujourd'hui en France, qu'est-ce qui est mis en place concrètement pour protéger ces zones humides ?
Eh bien, ce qui est mis en place, c'est qu'on a défini des critères, notamment sur les couleurs ou de végétation, à repérer. Et puis, à partir de là, on va identifier des surfaces sur nos territoires qui possèdent ces caractéristiques que j'avais appelées tout à l'heure hydromorphie, de couleur ou de végétation. Et c'est ce qui se passe actuellement. Chaque fois qu'il y a un projet prévu en fonction de sa surface, eh bien, on doit s'assurer qu'on ne va pas détruire la fonctionnalité de la zone humide.
C'est-à-dire qu'on n'y touche pas ou qu'on y touche mais avec précaution ?
Eh bien, ça dépend. Après, la décision vient d'un peu plus haut. Si le projet est d'utilité publique, parfois on a le droit de l'attaquer et donc il faudra compenser derrière. Voilà. Et puis parfois, eh bien, on n'y touche pas. Ça dépend de l'intérêt du projet, je dirais.
Est-ce qu'on peut vraiment compenser la destruction d'une zone humide ?
Alors moi, j'y crois pas tellement. C'est hyper compliqué parce que à partir du moment où on veut compenser, ça voudrait dire qu'il faut retrouver un milieu équivalent à peu près dans le même secteur pour compenser. C'est toujours dur à trouver parce que ça va... En fait, il faudra impacter un autre milieu. Et puis, si vous voulez, quand on veut compenser, on va essayer de peut-être de recréer un milieu de manière artificielle, mais l'homme, on n'est jamais certain du résultat, si vous voulez, parce qu'on est toujours c'est un peu des balbutiements où on espère avoir une fonctionnalité, mais il n'y a rien de moins sûr derrière. Et parfois, quand on se trompe, eh ben, on a détruit une deuxième fois un autre milieu. Donc c'est toujours difficile de compenser ce qu'a fait la nature, sachant que la nature, pour faire un sol, il faut, pour faire un centimètre de sol, faut entre 200 et 500 ans, si vous voulez. L'homme, c'est dur de prétendre faire la même chose en un an, si vous voulez. On ne peut pas rivaliser, je pense, avec les possibilités de construction de la nature.
Le quatrième plan national milieu humide en France, qui s'étale de 2022 à 2026, il prévoit la restauration de 50 000 hectares de zones humides. Vous y croyez, vous, à la restauration des zones humides ?
Ben, on peut quand même faire des choses. Je dirais que moins la zone a été impactée, plus il est facile de la restaurer. Par exemple, si on veut réinvestir des marais poldérisés dans lesquels on a évacué l'eau par des fossés, ben, effectivement, on pourrait dire on bouche les fossés et puis là, ça va être fonctionnel. Sur des choses de cet ordre-là, oui, ça peut être facile, on peut refaire des choses. Par contre, des milieux qui auraient été partiellement détruits, vouloir les reconstruire, c'est pas toujours évident, si vous voulez. Non.
Comment se portent nos zones humides ici dans les Pays de la Loire ?
Écoutez, les Pays de la Loire sont un secteur un petit peu, je dirais, propice aux zones humides telles qu'on les entend réglementairement, parce que il y a une partie de notre territoire qui se trouve sur le massif armoricain et qui est par nature assez imperméable. On a un plancher imperméable. Et effectivement, dans un climat où il pleut l'hiver et au printemps, eh bien, ce sont souvent des terres qui ont du mal à évacuer l'eau si on n'est pas sur des pentes. Et donc, on a un territoire qui possède, par endroit, effectivement, peut-être plus de zones humides que d'autres secteurs. Si vous voulez, en fait, ce qui se passe, c'est que l'homme, il a toujours voulu évacuer l'eau, soit pour habiter judicieusement, pour habiter, pour mettre à l'abri pérenniser ses cultures. Donc forcément, c'est toujours un compromis, c'est un milieu concurrentiel avec l'habitat, les cultures. Donc forcément, elles en pâtissent un petit peu de ça. Mais il y a encore des zones humides quand même.
Quelles sont les menaces qui pèsent sur ces zones humides, ici dans la région ?
Ben, les menaces, effectivement, déjà, c'est un petit peu la thématique aussi des journées mondiales d'études des sols cette année, c'est-à-dire qu'on urbanise beaucoup, donc quand on urbanise, on détruit du sol, donc on détruit aussi des zones humides. Je dirais qu'aujourd'hui, depuis qu'il y a la loi, elles sont peut-être moins impactées parce qu'on va les préserver un peu plus, donc ça va peut-être pas mieux, mais on a stoppé la dégradation des zones humides. Le problème actuellement, c'est que les gens ne sont pas assez formés. En fait, n'importe qui peut acheter un outil pour aller voir s'il y a des zones humides parce qu'il y a beaucoup de bureaux d'études qui se lancent dans l'aventure. Et du coup, les diagnostics, on n'est pas très bon en termes de diagnostic. Et si on met plusieurs opérateurs de terrain, on va avoir des diagnostics différents. Et je pense que pour mieux les protéger, il va falloir que les gens apprennent à mieux se former pour mieux les évaluer sur le terrain et qu'on soit plus efficace.
Qu'est-ce que ça pose comme problème le fait d'avoir du mal à identifier les zones humides ?
Ben, ça veut dire que parfois on en loupe, Hein, c'est-à-dire que l'opérateur qui est mal formé, il va passer à côté du diagnostic et puis du coup, ben, le projet va se faire, par exemple. C'est surtout ça la problématique actuellement.
Merci Christophe Ducommun. Je rappelle que vous êtes pédologue à l'Institut Agro Angers-Rennes et président de la commission des zones humides de l'Association française pour l'étude des sols.
Vous venez d'écouter La santé des sols.
Une collection de reportages produites par la CORLAB, coordination des radios locales et associatives de Bretagne,
et la FRAP, Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
En partenariat avec l'AFES, l'Association française pour l'étude du sol, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver en ligne sur ondes-durables.fr.
Ondes Durables est un projet soutenu par l'État
dans le cadre de France 2030 et du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2,
opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.